carnet campagne, bonjour. Les carnets s'inquiètent aujourd'hui du dérèglement climatique. Enfin, c'est pas la seule journée, mais plus particulièrement en ce mercredi, dérèglement climatique contre lequel la production d'énergie renouvelable doit jouer un rôle prépondérant. Sauf que depuis 2015, date d'entrée en vigueur de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mesures prises demeurent encore très insuffisantes. Dans le département fil rouge de la semaine, l'Orne, des habitants comme partout ailleurs lancent des actions locales, comme c'est le cas avec l'association Mortagne en transition. Constituée en 2017, celle-ci installe des jardins collectifs dans les espaces verts des quartiers. Elle a également ouvert un verger partagé, une grainothèque. Elle organise des ateliers pratiques sous le nom de l'heure du jardinier. Elle envisage de créer une coopérative de production locale afin d'apporter davantage de menus bio dans les cantines scolaires. Et puis elle organise des rencontres sur les transports, l'énergie, l'eau, le zéro déchet ou la consommation relocalisée. L'équipe est dans une bonne dynamique et se veut résolument optimiste malgré ce que nous allons partager avec notre invité aujourd'hui, Patrick Bem.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Patrick Bem, bonjour.
Bonjour Philippe.
Patrick, vous êtes fondateur d'Enercoop. Alors Enercoop, c'est aujourd'hui la grande, j'insiste, la grande société coopérative intérêt collectif qui propose de l'énergie 100% verte. On avait reçu il y a quelques années Emmanuel Soulias d'ailleurs pour en parler. Aujourd'hui, vous vous portez bien si je regarde les chiffres. Combien? 11 coopératives régionales, 42 000 clients, 34 000 sociétaires.
Un peu plus de 70 000 clients, vous voyez. Ça, vous n'êtes pas à jour dans vos chiffres.
Bah, attendez,
ça bouge tous les jours, c'est vrai, c'est compliqué, mais non, ça grossit très bien. Effectivement, on est sur un mode de développement très rapide. Moi, je suis plus directeur d'Enercoop, comme vous l'avez dit. Je suis simplement, mais je reste aussi à Enercoop.
Fondateur et administrateur.
Voilà, et on ne quitte pas une boîte comme Enercoop, évidemment. Donc, je reste assez actif au sein d'Enercoop. Donc, on est sur un mode, effectivement, de développement assez rapide, qui a été voulu par le conseil d'administration. Voilà, on vise toujours les 150 000 clients dans un horizon de très moyen terme, on va dire. Voilà.
Et aujourd'hui, les sources d'approvisionnement, alors, sont de toutes sortes d'énergies renouvelables, entre autres la méthanisation.
Alors, jusqu'à présent, c'était principalement quand même des sources d'origine de la petite hydraulique, on va dire. Parce que vous savez que les autres formes d'énergie renouvelable sont aujourd'hui aidées par un système qui font que on les achète plus cher. Et on n'avait pas la possibilité jusqu'à aujourd'hui de récupérer la différence de prix. Or, la réglementation, alors notamment suite à notre lobbying pendant quelques années, a bougé sur ce point-là. Et maintenant, on arrive effectivement à arracher ces énergies à des prix, disons, qui correspondent à des prix du marché. Donc, ça veut dire qu'on arrive maintenant à intégrer dans notre mix énergétique, ce qu'on appelle le mix énergétique qu'on offre à nos consommateurs, qui inclut de plus en plus, effectivement, alors à la fois, évidemment, de photovoltaïque, évidemment, d'éolien, et un peu aussi de méthanisation, qui est une filière qui est en plein développement, bah
oui,
très en retard en France.
Vous avez signé des accords là avec des producteurs, des agriculteurs.
Absolument, absolument. Et un scoop que je vous révèle, on est en train de réfléchir vraiment à une offre de gaz bio qui pourrait compléter notre offre d'électricité.
Très bien. Alors, vous êtes responsable aussi du groupe de travail sur la transition énergétique et citoyenne au labo de l'ESS. Vous avez rendu une copie sur la sobriété énergétique. Alors, un mot d'abord sur, si on peut parler d'efficacité, on va dire, on change son ampoule, très bien, on met de la LED, ça va moins consommer, ça c'est, on va dire, une forme d'efficacité énergétique. La sobriété énergétique.
Voilà. Alors, effectivement, je pense qu'il faut bien préciser le vocabulaire parce que c'est pas forcément dans la tête de tout le monde. Vous savez que la transition énergétique, ça a trois pieds. Je vous le fais à l'envers. Le dernier pied, on va dire, c'est les énergies renouvelables. Et très clairement, une structure comme Enercoop est en plein dans ce créneau-là. Une structure comme Énergie Partagée qu'on a créée aussi pour un peu favoriser l'avènement du renouvelable citoyen et s'inscrit complètement dans cet axe-là. Vous avez également le deuxième axe, des générations d'ampoules à LED par rapport à des ampoules fluo-compact qui étaient par rapport elles-mêmes avant à des ampoules à incandescence. Finalement, c'est que la techno qui s'améliore, c'est qu'elle rend le même service en dépensant moins d'énergie pour ce même service. Ça, c'est l'efficacité énergétique. Et ça marche très très bien. Je dirais, à la fois les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique sont deux domaines qui sont en plein boom, on va dire. Le troisième axe, qui en fait est le premier, véritablement, c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Donc là, c'est très différent, puisqu'il s'agit effectivement, pour le faire plus clair, de moins consommer en changeant ses comportements, à la fois individuels et collectifs, de consommation. Donc, c'est pas la technologie qui est améliorée, c'est nos modes de vie individuels et collectifs qui doivent s'adapter pour essayer de mieux consommer et moins consommer de l'énergie. Alors, je dis que c'est dans le désordre parce qu'en fait, quand on parle de transition énergétique, en général, ce qu'on dit, il faut d'abord, moins consommer, parce que ce qu'on ne consomme pas, c'est ce qui pollue le moins, ça c'est très clair. Voilà. Ensuite, il faut consommer efficacement, sinon c'est pas la peine, on perd de l'énergie pour rien. Et pour ce qu'on doit consommer, parce qu'on est obligé de consommer quand même de l'énergie, on peut pas s'en passer complètement, eh bien, là, il faut davantage faire appel aux énergies renouvelables, si possible, pour l'énergie dont on consomme.
Et ce travail que vous avez mené avec le labo sur la sobriété énergétique relève trois points. D'abord, quand on parle de sobriété énergétique, on peut prendre plus globalement une transition aujourd'hui. Oui. Alors, des comportements, des modes de production, des modes de consommation, des modes de circulation, etc., etc. C'est aussi une coordination entre des actions citoyennes et des actions politiques. Parce que, évidemment, les institutions doivent réagir au même titre que les individus. Et puis, le troisième point qui est important, c'est l'équité sociale. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec ces passoires énergétiques, comme on le dit à chaque fois, mais on a un parc immobilier aujourd'hui pour des personnes qui ont des faibles revenus, qui sont des consommateurs d'énergie à toute puissance.
Absolument. Alors, la sobriété énergétique est un problème difficile et qui, l'étude l'a bien montré, est véritablement le parent pauvre de la transition énergétique. Pour un tas de raisons. Je vais en citer simplement deux principales. Hein. C'est qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, vous voyez, quand on change toutes nos ampoules à incandescence pour des ampoules fluo compactes et que quelques années après, on les change encore avec des ampoules à LED, on s'inscrit dans un schéma qui est tout à fait conforme au mode de développement et au mode économique dominant, on va dire. Les énergies renouvelables, c'est un peu pareil, c'est finalement une nouvelle technologie qui produit de l'énergie. Quand on parle de sobriété, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on vise à moins consommer. Or, si on consomme moins, on doit moins produire. Et donc, si on produit moins, on peut se dire, c'est peut-être la machine économique dans son ensemble qui ralentit. Et donc là, il y a des spectres qui sont agités, comme le chômage de masse, là, le ralentissement économique. Voilà. Donc c'est beaucoup plus difficile de ce point de vue-là.
Il y a eu 3 millions de mal logés en France.
Absolument. D'un autre côté, un autre élément qui rend l'équation un petit peu difficile à résoudre, c'est le fait que changer une technologie, c'est toujours faisable. Changer les comportements, vous voyez, ça convoque des réflexions et des changements beaucoup plus profonds. Nous, on a travaillé évidemment avec des sociologues, parce que c'est pas uniquement un problème technique, on va dire. Hein. Et ces sociologues nous disent tous qu'effectivement, les changements de comportement ne se mettent en œuvre que s'il y a un changement global, vous voyez, de culture, et que ces changements globaux de culture sont extrêmement difficiles à se mettre en place et à se déployer. Alors, je dois dire, pour être un peu plus positif, c'est que il se passe énormément de choses sur la sobriété. Et je dirais, votre émission Carnet de campagne en est bien la preuve. Vous citez tous les jours un nombre extrêmement élevé d'initiatives citoyennes extrêmement intéressantes qui montrent que les gens ont envie d'autre chose. Malheureusement, globalement, force est de constater qu'au niveau français, comme au niveau mondial, on est encore très en retard sur la transition et que sans la sobriété, on n'y arrivera pas, simplement.
Patrick Bem, invité des carnets de campagne, Patrick, fondateur d'Enercop et aujourd'hui encore administrateur et surtout responsable donc de ce groupe de travail au labo de l'ESS sur la transition énergétique et citoyenne du labo. À propos donc des comportements, des réactions citoyennes, très bien, il y a la réaction politique. Et la réaction politique, c'est de donner l'exemple. L'exemple est mal donné. Parce que si on fait un premier bilan, Patrick, COP24, c'est pas le consensus. On a vu la réaction des États-Unis, de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, la COP24 a permis à chaque signataire des accords de Paris de dire « Ok, on va lire le manuel de 100 pages. » 3 ans plus tard, il serait temps. Il faut apprendre à lire, les enfants. Et nous sommes loin du compte. Et le GIEC, groupe international d'experts sur la transition climatique, a fait savoir qu'aujourd'hui, nous étions très loin du compte, qu'il faudrait réduire de 50% environ les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 pour arriver en dessous des 1,5 degrés.
C'est ça. Alors, si on se reporte à l'année 2015, il y a eu deux événements très importants et extrêmement positifs de mon point de vue, qui sont à la fois l'accord de Paris, dans lequel il y a 175 pays qui se sont mis d'accord pour dire qu'il faut absolument décarboner l'atmosphère, donc ça a soulevé un espoir extraordinaire. Et on a eu en France la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a donné des objectifs chiffrés extrêmement ambitieux. Et pour la première fois, ce qui n'était pas le cas des accords de Paris, en parlant de sobriété énergétique, avec un objectif de diviser par deux la consommation énergétique à l'horizon 2050. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est considérable. Et ça avoue, de façon formelle, que l'efficacité et les énergies renouvelables ne suffiront pas à assurer la transition. Donc c'est extrêmement positif. Malheureusement, vous l'avez dit, si on prend ces deux points-là, alors reprenons les accords de Paris, depuis, on a eu 3 COP depuis. Vous avez raison, c'est un peu catastrophique.
On est COP.
Ces 3 COP successives auraient dû mettre en œuvre et préciser les feuilles de route pour les accords de Paris, en fait, vous voyez bien ce qui se passe. Hein. Alors, effectivement, il y a eu des éléments particulièrement pénalisants, comme le retrait des États-Unis. Les prises de position récentes du gouvernement brésilien aussi ont pesé par rapport à tout ça. Mais toujours est-il qu'effectivement, force est de constater que la COP, conférence de Paris, très bien, et derrière, pas grand-chose.
Oui, mais alors, du constat, donc, si les États ne donnent pas l'exemple, pourquoi acculer les citoyens à réagir
alors,
par eux-mêmes?
Je reviens à ce que nous ont dit nos sociologues, notamment ceux du Crédoc, hein, qui ont une vision très intéressante là-dessus. Un changement sociétal ne peut pas intervenir que si on agite l'un des deux bouts de la chaîne. Tout miser sur le politique en disant « si le politique fait rien, rien ne se passera », ne marche pas. La preuve. Par ailleurs, reporter toute la responsabilité en culpabilisant les citoyens que nous sommes, ça ne marche pas non plus. Il est absolument indispensable, si vous voulez, qu'à tous les niveaux, alors non seulement au debout de la chaîne, mais au niveau intermédiaire, et ça c'est particulièrement intéressant, et là je reboucle avec le rôle particulier du laboratoire de l'ESS, les niveaux intermédiaires que sont les territoires, hein, au niveau des régions, au niveau des communautés de communes, et puis aussi les entreprises. Il faut qu'à tous ces niveaux-là, les niveaux extrêmes, macro, micro, et les niveaux qu'on appelle méso, hein, entre les deux, qu'ensemble, quelque chose, la balle soit renvoyée, que les niveaux intermédiaires puissent fédérer un petit peu toutes les initiatives citoyennes qui sont nombreuses, et vous le savez, sur les territoires, qu'elles puissent infléchir les politiques nationales également, qu'elles s'en fassent le relais, et qu'une mayonnaise commence à monter avec tous ces niveaux-là. Mais très clairement, on ne réussira pas tant que l'ensemble de ces niveaux-là ne suivra pas la bonne démarche.
Qui donne l'exemple aujourd'hui?
Je crois il y a deux niveaux sur lesquels il y a beaucoup de choses intéressantes à analyser. Il y a le niveau des citoyens, où effectivement il se passe énormément de choses, et extraordinairement d'initiatives extrêmement fructueuses. Et vous avez également les territoires qui sont véritablement, je pense, motivés à inscrire leur territoire donc dans la transition. J'étais tout récemment aux Assises de l'énergie qui ont lieu à Dunkerque, qui est une ville très intéressante de ce point de vue-là, et qui regroupe notamment beaucoup d'acteurs des territoires qui sont là à la recherche d'idées nouvelles pour faire progresser la transition sur leur territoire. Alors, c'est davantage les énergies renouvelables, c'est davantage l'efficacité économique, énergétique, pardon, que la sobriété proprement dite, mais on commence véritablement, y compris à ce niveau-là, de parler de sobriété énergétique, et ça, c'est un grand espoir.
Bon, on reste sur cette note d'espoir, parce que c'est bien de terminer comme ça. Merci Patrick Bem.
Merci.
Le labo, l'adresse, c'est le labo-ess.org, et puis Enercop, c'est enercop.fr.
Tout simplement.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Je termine par le projet de Clémence qui nous a envoyé un dossier complet sur son Tour de France éco-responsable à bicyclette qu'elle entreprendra à partir du 31 mars. Elle a 26 ans, parisienne, ingénieure agronome en herbe, ça vaut mieux qu'en béton. Après 5 ans d'études, Clémence est à l'image d'une génération de plus en plus soucieuse de l'avenir de la société et de la planète. Elle souhaite passer à la pratique en commençant par arpenter les territoires de France à la rencontre d'une agriculture et d'une alimentation alternative. Elle se donne 6 mois pour parcourir 6 000 kilomètres. Il y a une page Facebook si vous voulez la soutenir dans cette démarche qui s'appelle Mercycle 2019. On revient dans l'Orne avec Nicolas Stoufflet, perche en ossée, c'est le jeu des 1 000 euros.